gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute, toujours et encore, de Radio Canu 102.2 sur la région lyonnaise et sur radiocanu.org partout ailleurs. Et puis, comme on vous l'annonçait précédemment, 22h, c'est l'heure de la causerie. Et puis ce soir, autour de la table, il y a Clara à la technique.
Bonsoir.
Qui bidouille, qui trifouille les petits boutons. Et, ouais. et Fab.
Salut.
Voilà.
Et Jean-Yves qui a fait l'ouverture.
Merci. Bonsoir. Et ben on va en profiter pour saluer aussi les absentes, en tout cas les causeuses et causeurs qui ne sont pas là ce soir. Il y a Emma, il y a Jonathan, il y a Nadège, il y a Stan. Voilà. J'ai oublié personne.
Non, normalement c'est tout.
Bon, bah nickel.
On est 7 dans l'équipe pour l'instant.
Ouais.
Bientôt 12. Et 50.
C'est ça. C'est ça. Ben on va vous rappeler les infos quand même avant d'attaquer les sujets. Alors, pour nous contacter, vous pouvez passer par mail. Ça se passe comment ?
lacauserie.canu@gmail.com.
Et on a aussi un blog.
À blogs.radiocanu.org/lacauserie. Voilà. Alors, je voulais juste te dire, sur le blog, en fait, ça rame un peu au niveau du lecteur. Donc, on nous l'a fait remarquer. Donc, en fait, il faut juste mettre lecture et ensuite, il faut mettre pause pour attendre que ça charge un peu. Oui, il y a de l'écho dans les casques, je sais. C'est ma faute.
Voilà. Et puis, bah, si en direct, vous n'y arrivez pas directement, vous pouvez juste enregistrer le fichier et puis ça va aussi. Voilà, petite porte fermée. Et c'est bizarre, on dirait que c'est un petit peu mieux.
Ouais, voilà.
Enfin bon, tout ça, vous vous en fichez de l'autre côté du poste, mais nous, c'était pas agréable. Voilà.
Et je vais aussi en profiter pour dire qu'on a... Je vais la refaire, celle-là.
Ok, vas-y, bah si on reprend.
Mais elle n'est pas arrivée. Oui, alors en fait, je voudrais juste dire que si vous voulez nous contacter, faites-le, donc, comme on le disait, plutôt par mail. Et qu'on vous le rappelle, si vous êtes des artistes musicaux, on prend aussi des artistes musicaux, parce qu'on a des gens qui disent « Oh, la causerie, c'est une causerie ». Mais non, des fois, on a aussi des gens qui font de la musique.
Ah,
ça
ouais.
Me fait plaisir de les avoir.
Et donc, même voilà. Qu'on arrive à causer avec des artistes.
C'est un truc de fou.
Tu m'étonnes.
Et ça permet de lancer ta chronique, Jean-Yves.
Mais
parce
toi, t'es vraiment balèze.
Genre,
tu serais digne de bosser dans les plus grandes radios.
Non, ça suffit. pas d'insultes, s'il te plaît. Non. On va pas les fricoter avec ces gens de France Culture.
Non.
Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, c'était, tu veux nous parler de l'art et notamment de la place des femmes dans l'art à travers un collectif
un groupe
qui s'appelle les
Guerilla Girls. Alors moi, je vais recontextualiser un peu, je vais raconter ma vie, parce que voilà, la causerie, c'est aussi un peu ça. Non, je déconne. Non, en fait, je suis tombé là-dessus parce que je suis tombé face à face avec
une de leurs
œuvres, et puis une seconde par après. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que je trouvais que c'était très intéressant, et les œuvres, les affiches, tout ça sont... sont effectivement très intéressantes et politiques et féministes. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, on va essayer d'en parler un petit peu, de vous présenter, enfin, j'avais envie de vous présenter le collectif et les actions qu'elles ont pu mener, qu'elles continuent encore de mener, etc., et un peu retracer l'historique de ce mouvement-là. Et ben, comme tu le disais, effectivement, c'est un groupe d'artistes féministes qui a été fondé en 85. À New York, et qui sont, alors je reprends un peu des mots retrouvés par-ci par-là, qui sont connus pour créer et diffuser des affiches afin de promouvoir la place des femmes et des personnes de couleur dans les arts. Voilà. Et alors en fait, pourquoi elles se sont fondées ? En fait, c'est suite à une exposition qui était organisée au Metropolitan Museum of Art, donc à New York, et qui avait la prétention, on va dire, ouais, d'établir un état des lieux des grandes tendances de l'art contemporain sous le titre de, je vais vous la faire en français plutôt, un aperçu international sur la peinture et la sculpture. En fait, sauf que cette vue d'ensemble sur l'art moderne contemporain, c'est-à-dire que il y avait 13 femmes sur 169 artistes. Donc, si on fait un peu le ratio, ça fait pas bézef, hein, quand même. Donc, elle faisait partie des artistes et des féministes qui ont été plus qu'agacés par tout ça, en fait, et qui ont manifesté devant les portes du musée, et avec l'effet que ça a eu, c'est-à-dire rien, que dalle, hein, évidemment. Juste sur un coup, ça suffit pas pour renverser les choses. Et donc, elles, en fait, elles se sont dit, tiens, on va créer un collectif qui prendra donc ce nom de Guerilla Girls. Et ça se passe, pour le situer aussi, c'est dans les années Reagan. Donc, c'était jusqu'en 89. C'est des années, effectivement, où c'est le retour triomphant du conservatisme et de la guerre de la culture. Parce que ce courant-là accusait les intellectuels et aussi les artistes de saper les fondements religieux et sociaux des États-Unis.
Le courant réganien.
Le courant réganien. Ouais. Donc, la religion qui revient des fois souvent ici aussi à la causerie. Et ben voilà. Donc, elles, en fait, leur première action, ça a été de faire une campagne d'affichage partout dans New York, décriant le manque de représentation en fait de différents groupes sociaux dans les galeries, dans les musées, etc. Au fur et à mesure, elles ont aussi élargi, on va dire, leur critique à Hollywood et à l'industrie du ciné. Et je vais vous citer après je sais plus si j'ai deux trois exemples sur ça ou pas.
Je me souviens moi d'une intervention qu'elles avaient fait aux Oscars bien une quinzaine d'années. Parce que je crois qu'elle porte des masques de gorille.
C'est ça, je vous en parle après.
Voilà, et elles avaient fait à l'ouverture des Oscars, elles avaient balancé des portraits d'une star de l'époque masculine, mais en fait travelotée, comme elle disait, pour dire tiens, si elle était comme ça, il ne serait pas connu.
C'est ça. Ok, merci.
Ça m'est revenu.
Non, mais nickel. Et effectivement. Donc, ce que je disais sur Hollywood, l'industrie du ciné, la culture populaire et la corruption aussi dans le monde de l'art. Donc, je me relis tout ça. Et alors, c'est ce qui est écrit, c'est que au départ, ils étaient censés être que autour de l'art, mais en fait, on dévie rapidement sur le politique, en fait. Après, de mon point de vue, tout est politique. Donc, forcément, si tu crois que faire de l'activisme par n'importe quel biais, c'est pas faire du politique, je pense que déjà, bref. Donc, spécificité, effectivement, tu le soulignais de leurs interventions, c'est qu'elles sont anonymes, en fait. Alors, pas tout à fait anonymes, parce qu'en fait, elles prennent des pseudos. Alors, il y a une Frida Kahlo, il y a une Anna Hoch, qui était une artiste plasticienne allemande, donc Frida Kahlo, comme je vous le disais, qui était une peintre mexicaine. L'idée, c'est que même leur pseudo est politique, en fait. C'est pour constamment rappeler, en fait, l'absence ou la non-reconnaissance, en fait, des artistes femmes. Donc voilà, il y en a d'autres. Il y en a une qui s'appelle aussi Rosalba Carrera, qui était en fait une peintre vénitienne et qui a lancé la mode du pastel en France. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est jamais, c'est des femmes qui ont leur importance dans des mouvements culturels, artistiques, et que finalement en fait on s'en tape quoi, on les retient pas.
Surtout on les reconnaît pas.
On les reconnaît pas. Et donc voilà. Donc tout ça. Alors il y a aussi un truc, c'est autour de leur leur anonymat, pardon. Parce qu'il y a aussi justement cette tête du gorille, en fait. Elles ont toujours un masque de gorille. Et alors, soi-disant, en fait, ça viendrait d'une erreur. Un jour, elles étaient en réu, et il y en a une qui a fait une erreur, qui, au lieu d'écrire « Guerilla Girls », elle a écrit « Gorilla Girls ». Et là, en fait, elles se sont dit « Bah tiens, on va garder ça », parce qu'en même temps, le gorille en lui-même est aussi symbolique de certaines choses. Alors, elles reprennent l'image de King Kong.
Oui.
Elles reprennent l'image de King Kong. Enfin... elles reprennent, effectivement, elles replacent aussi, ben, même le gorille, etc. Il y a quelque chose aussi.
L'imagerie du gorille, au milieu.
C'est ça. Et un jour, qu'elles étaient en service lors d'un discours d'ouverture à l'école de l'Institut d'art de Chicago, il y en a une d'elles qui a balancé, en exhortant les élèves et les futurs artistes à s'émanciper, à conquérir des libertés, elle a balancé, et surtout, oui, surtout, soyez un grand gorille. En 1917, Kafka a écrit une nouvelle, A Report to an Academy, dans laquelle un grand singe parlait de ce que c'était que d'être pris en captivité par un groupe de diplômés du genre intellectuel. L'histoire se termine avec le singe complètement apprivoisé et brisé par ses universitaires stupides. Mais dans une version antérieure, Kafka, raconte une histoire différente. Le singe termine son récit en demandant aux autres singes de ne pas se laisser apprivoiser. Il dit plutôt « Brisez les barreaux de vos cages, faites une ouverture, faufilez-vous au travers et demandez-vous où vous voulez aller. » Donc voilà. Donc elles arrivent quand même toujours à mettre un truc politique derrière même ce masque. On pourrait se dire « Bah tiens, elles ont trouvé ce masque au hasard. » Mais non. Et donc bah, leur activisme en tout cas, il prend forme justement sous forme de manifestations comme j'ai pu l'évoquer, aussi d'autocollants, d'affiches, d'illustrations. Enfin, elles ont fait beaucoup de trucs, et c'est pareil, elles essaient de bosser au plus proche en fait des artistes, en les encourageant à parler justement des problèmes, en fait, parce que c'est aussi tout ça, c'est que elles le disent, hein, elles dénoncent aussi vachement le milieu très fermé de l'art, etc. Enfin bon.
Parce qu'elles sont plutôt pour une ouverture à tous de l'art, hein, si j'ai bien compris.
Ouais, enfin, elles sont très critiques, même sur le marché de l'art, sur les musées. Enfin, je voulais vous les citer après, mais je peux vous les citer maintenant. C'est des affiches qu'elles avaient faites. C'était autour de... c'est vrai que l'art est très cher, même pour les milliardaires. C'est bien pour ça qu'ils ne peuvent pas payer décemment leurs salariés, etc. Donc c'est aussi toujours une critique de tout ce business, en fait. Et elle le dénonce, hein, le business, elle le dénonce comment ? C'est-à-dire que les œuvres que moi j'ai pu voir et que j'ai pu louer à la rigueur, eh ben, vous allez sur leur site internet, pour $20, vous pouvez trouver leurs affiches. Donc elles ont un peu une démarche, encore actuellement, un peu du genre de Banksy aussi, c'est-à-dire créer à profusion des œuvres qui finalement sont... Qu'est-ce qui crée une œuvre, en fait ? C'est sa rareté, souvent, en fait. Et elle, en fait, elle tue tout ça en diffusant largement toute leur création. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà, il faut que je me retrouve dans toutes mes petites notes, ce qui n'est pas gagné, mais.
Mais en fait, tu parlais de leur mode d'intervention. Et donc on est passé aux affiches, et je pense que tu as dû te retrouver entre temps.
C'est ça, nickel. Et aussi, alors elles ont commencé à, alors elles appellent ça des Winnie Counts. En fait, ça s'appelle, on pourrait le traduire par total de quéquette. C'est le comptage de quéquette, en fait. Donc parce que elles dénonçaient en fait quelque chose aussi, c'est que dans la section d'art moderne, par exemple, c'était au Met, donc justement le musée dont je vous parlais avant, c'est qu'il y a moins de 5% d'œuvres qui sont créées par des femmes. Par contre, 85% des nus sont des nus de femmes. Donc c'est toujours entre être le sujet d'eux et être l'acteur d'eux. C'est vraiment, moi je trouve très intéressant. Vraiment, enfin, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez... Enfin, Fab, tu pourras dire ce que t'en penses. Pardon. Mais je trouve que c'est encore une fois, là, très intéressant. Elles ont aussi, elles ont été exposées après à plusieurs endroits. Hein. C'est aussi tout le truc. Après, on peut être, même quand on est contre un système, on devient en soi des artistes, en fait. C'est une démarche artistique. Mais comme Banksy, je pense que et plein d'autres artistes, hein, ça les fait chier en fait, c'est-à-dire de dénoncer un système qui en fait ensuite vous rattrape en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est justement tout ce marché de l'art, tout ce business-là.
Mais surtout qu'il y a aujourd'hui un vrai marché de la subversion. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment acheter de la subversion.
C'est ça.
Parce que ça les rend un peu subversifs d'acheter de la subversion. Enfin, ils ont l'impression. Hein.
C'est ça, oui, mais c'est ça. C'est, ça leur donne un petit frisson.
Ouais, alors que,
c'est-à-dire qu'ils ont acheté un truc à des milliers d'euros et ça leur donne le frisson parce que l'œuvre représentée, c'est frissonnant. Quoi.
Et c'est ce que Banksy a très bien dénoncé dans Dismaland, qui était la version trash de Disney, en disant, mais si vous êtes capable de regarder ça en ayant l'envie de l'acheter, vous êtes vraiment grave, quoi. Donc, voilà.
Alors, elles ont aussi écrit des livres. Alors, moi, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de traduction française. Alors, donc, amis auditrices, auditeurs, si vous connaissez des traductions des livres des Guerrilla Girls, eh ben, filez l'info sur lacausericanu@gmail.com ou sur le blog, parce que je serais vraiment, justement, intéressé d'en lire, en fait. Donc, voilà. Quoi vous dire d'autre en fait? Quoi vous dire d'autre?
Mais elles sont toujours actives aujourd'hui?
Alors ouais, elles sont toujours actives. Elles ont splitté. C'est un drôle de nom. Hein. Ça fait très groupe.
Elles sont séparées.
Ouais, c'est.
On dirait un boys band.
Ouais, c'est ça. Oh ça. Allez, j'arrête. Oui, en fait, vers la fin des années 90, début 2000, en fait, elles se sont scindées en plusieurs branches. Alors. C'est écrit indépendante et spécifique. Après, là, en ayant suivi un peu ce qu'elles ont fait autour des 30 piges, j'ai l'impression que c'est un peu plus flou que ça quand même, parce que, mais je vous le décrirai. Il y a les Guerrilla Girls, elles qui continuent d'être actives. Vous pouvez les retrouver sur guerrillagirls.com. Ça a été fondé par encore des anciennes du départ, on va dire, et d'autres personnes. C'est toujours pareil, hein, continue de l'utilisation de textes provocateurs, de visuels et d'humour au service du féminisme et du changement social. Pareil, elles ont écrit aussi plusieurs bouquins, elles ont des projets sur l'art mondial, le ciné, la politique, la culture pop, etc., etc. Il y a les Guerrilla Girls on Tour. Donc là, c'est pareil, c'est guerrillagirlsontour.com. Et alors elles, je crois que c'est leur site à elles, il n'y a plus rien. Par contre, elles étaient un collectif, enfin elles sont, je sais pas hein, s'il faut continuer de conjuguer au présent ou pas, mais c'était un collectif en fait de théâtre itinérant en fait. Et elles avaient décidé de continuer leur lutte plus par l'art de scène en fait. Et pour terminer, le troisième groupe qui s'est créé, c'est le Guerrilla Girls Broad Band. Ouais. Et elles, alors, ça a été formé par 4 anciens membres et d'autres personnes encore hein, qui se sont rajoutées. Et alors elle, c'est plus l'utilisation des réseaux sociaux en fait. Création de vidéos, utilisation de réseaux sociaux. Vas-y.
Non, mais je veux pas te couper.
Ouais, non, mais
en fait, c'est plus une séparation entre guillemets autour des modes d'action que sur le fond.
Oui.
Elles se sont pas engueulées sur le fond.
Oui, en fait, c'est
dit,
ça.
Bah nous, on est plutôt théâtre, nous, on est plutôt réseaux sociaux et nous, on continue à l'ancienne comme on faisait avant et ça nous va très bien.
C'est ça. Moi, ouais. Je l'ai lu comme ça, surtout quand après, j'ai vu que ben, pour les 30 piges de l'année dernière du collectif, hein, du collectif Guerrilla Girls, j'avais l'impression qu'il y avait au moins deux des groupes qui était en activité autour de ces 30 piges. Donc, c'est qu'elles s'y reconnaissent toujours et que, donc, je trouve ça plutôt intéressant. Même si j'avais lu qu'il y a un des groupes qui aurait porté plainte contre les deux autres groupes pour l'utilisation de droits, d'auteurs, etc.
C'est peut-être celui, il n'y a plus rien.
C'est peut-être ça. Non, mais ouais, c'est.
Mais il y a toujours cette difficulté quand on est dans la finitaire, c'est qu'à un moment donné, si on se met pas en place un texte de base ou des choses communes, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une constitution, diraient certains, mais j'aime pas trop cette notion-là.
Mais c'est ce qu'elles ont fait.
Ouais, mais elles sont américaines, donc c'est pas surprenant. Mais avoir une espèce de texte premier, quoi, qui dit que ce qu'on défend, on n'arrive pas finalement à durer dans le temps parce que on n'arrive pas à savoir ce qu'on partage. Et c'est fait, les textes, c'est pas pour enfermer les gens, c'est pour dire ce qu'on partage.
C'est ça, quoi. Pour clarifier les choses plutôt.
Ouais. Notamment les modes d'action et à qui appartiennent les choses, parce que du coup, elles produisent. Donc du coup,
c'est tout le truc, c'est que c'est que derrière, il y a censé avoir des droits d'auteur, etc., etc. Donc c'est des choses. Et elles le disent, hein, le dernier Guerrilla Girls Broadband, elles le disent, la première chose qu'elles ont fait quand elles sont formées en 2001, c'était d'écrire une constitution, donc tu reprends ce mot, parce que le précédent groupe avait merdé en partie par manque de procédures convenues sur des choses comme la diversité, le partage du pouvoir, Tiens. Et les droits collectifs de propriété intellectuelle, effectivement. Donc voilà, je fais super long, je suis désolé, on va faire très rapide parce que là, je voulais juste vous filer deux, trois infos. C'est que donc, elles ont fêté, ben, je vous l'ai déjà dit, hein, leurs 30 piges l'année passée. Vous pouvez trouver des choses qu'elles ont fait spécifiquement pour ces 30 piges. On est toujours sur, et là, elles avaient fait un truc avec des gens qui utilisent la diffusion vidéo sur des musées, etc. Donc c'est intéressant aussi. Et elles sont à Paris. Enfin, en tout cas, il y a des œuvres à elles qui sont exposées à Paris. Donc, je vous le dis quand même, même si vous êtes lyonnaise, mais peut-être qu'il y a des Parisiens, Parisiennes qui nous écoutent. Eh ben, du 2 avril au 7 mai 2016, il y a des œuvres, en tout cas, elles, qui sont exposées à la galerie de Multiples, dans le 3e arrondissement parisien. Et ben, le nom de l'expo, c'est Ministère ta mère. Ok. C'est en lien avec ce ministère... de ouais. l'enfant, de la Droit famille et des femmes, enfin, ouais. ce beau truc bien réassignant. Voilà. Et vite fait, quand même, pour filer deux, trois exemples quand même de leurs œuvres, parce que là, j'ai parlé quasiment que de leur groupe et de ce qu'elles font, mais je voulais quand même citer deux, trois trucs. C'est, elles ont fait, bah, justement, pour leurs 30 piges, elles ont fait un comparatif qu'elles avaient déjà fait en 85. Elles avaient listé les musées qui exposaient des artistes féminines. Femmes. Et elles ont fait pour leurs 30 piges la même liste. Et en fait, on se rend compte que ceux qui en exposaient une avant, on expose aujourd'hui deux. Ceux qui en exposaient zéro, on expose une. Donc c'est juste que, ouais, 30 piges ont passé et bah, la lutte, elle est toujours encore plus que urgente, en fait, quoi. Mmh. Et une autre que j'avais vue, c'était justement la pilule d'œstrogène sur la planète, en fait. C'était une pilule, une arme d'œstrogène, parce qu'on voyait le globe, la Terre, on va dire, et justement, cette pilule d'œstrogène qui ressemblait à, je sais pas, entre un vaisseau, une météorite, quelque chose, et où c'était écrit en dessous, alors je le fais peut-être, donc je vais pas tout reciter, mais c'était... Enfin, filer des pilules d'œstrogène à nos dirigeants, à tout ça, et peut-être qu'à un moment donné, ils vont se calmer un petit peu, et puis ils vont peut-être penser au collectif, quoi. C'est-à-dire au bien-être de tout le monde, quoi. Et pas juste de leur petite gueule et du petit pouvoir et des guerres et tout ça et tout ça. Donc voilà, c'est tout. Ouais, et puis elles ont fait un autre tableau, je vais vous en parler aussi, une autre affiche, où on voit des femmes artistes qui sont derrière des barreaux de prison, et où justement, bah, cette œuvre a été créée, je crois, en Europe spécifiquement, elle a été créée à Paris, je crois, à Zurich, en Suisse. Et c'était bah, libérer les artistes femmes d'Europe, et on retrouvait derrière, j'en cite quelques-unes, parce que justement, ouais, moi j'ai appris aussi à en découvrir certaines, Elisabeth, Vigée Lebrun, qui était une artiste peintre française, Berthe Marie-Pauline Marisot, qui était peintre française, membre fondateur du mouvement d'avant-garde que fut l'impressionnisme. Enfin, je veux dire, merde, quoi. Yayoi Kusama, qui est une artiste contemporaine japonaise, elle a 80 piges passées, avant-gardiste, peintre, sculptrice et écrivaine. Anna Mendieta, qui est une artiste américano-cubaine, dont l'œuvre se situe à la croisée entre land art et body art. Et je crois d'ailleurs que c'est elle qui s'est aussi foutue en l'air. Et il y a Pan Yuliang, qui est une peintre, sculptrice et graveuse chinoise. Mmh. Et il y en a encore plein d'autres.
D'ailleurs, on parle beaucoup de Ai Weiwei, qui a été beaucoup malmenée par le régime. Et en fait, cet artiste-là a subi à peu près les mêmes... Ou a subi, je ne sais pas si elle est encore vivante.
Je crois qu'elle l'est encore, mais...
Et les mêmes pressions... Mais personne n'en a jamais parlé.
Et oui.
Et c'est ça qui est assez fou, quoi.
C'est ça. Ouais. Et je voulais juste, après, j'ai retrouvé en France un peu, il y a un truc qui peut ressembler, un collectif qui peut ressembler un peu aux Guerilla Girls, c'est la barbe.
Oui, c'est un peu les mêmes méthodologies.
Ouais, qui font des interventions avec toujours une barbe, parce que la barbe est le symbole du virilisme de notre société. Donc elles débarquent, alors j'ai vu la dernière réaction, je crois que c'était dans un comité d'entreprise d'une grosse boîte, elles sont arrivées avec des barbes, pour elle aussi pouvoir prendre place, en fait, au milieu de tout ça, quoi.
De tous ces hommes.
De tous ces bonhommes, c'est ça.
Je veux juste te poser une question. Ouais. Est-ce qu'elles ont bossé avec Yoko Ono à un moment donné? Non, je dis ça parce qu'elles ont des thématiques qui sont assez proches sur certaines dénonciations. Donc
alors, est-ce qu'elles ont bossé directement avec elle? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé une photo de Yoko Ono avec les Guerilla Girls. Mmh. Donc, je pense que ce n'était pas pour dénoncer Yoko Ono. Je pense que c'était plutôt une forme de... proximité, on va dire militante Ouais, on va dire ça. Donc, non, je pense qu'elles sont plutôt copines qu'ennemies, en fait.
Ah ouais. Oui, c'est parce que comme les thématiques se rejoignaient, je me suis dit...
Effectivement.
Et comme il y a une expo Yoko Ono à Lyon en ce moment,
c'est
ça peut valoir le coup de...
C'est ça.
Qui toucher à de l'art fait par une femme.
C'est ça. Donc voilà, vu que je suis désolé, j'ai bouffé énormément de temps, vu qu'on était sur cette thématique de d'artistes féminines, femmes, qu'on ne connaît pas, et ben moi j'avais envie de passer une artiste qu'on ne connaît pas, ou très peu en tout cas, et ben c'est Fanny Mendelssohn, avec, vous allez pouvoir entendre ça, mais elle aussi c'est une artiste qu'on n'a pas reconnue.
Thank you.
et vous n'êtes toujours pas à l'écoute de Radio Classique, mais bien de Radio Canu avec la causerie, s'il te plaît. Et on vient de s'écouter donc Quatuor pour cordes dans le deuxième mouvement. C'est de Fanny Mendelssohn et c'est interprété par le Quatuor Attaka. Et je voulais juste préciser...
Qui est Fanny Mendelssohn?
Qui est, voilà. Fanny... aussi connue sous le nom de Fanny Ansel, c'est la sœur d'un certain Felix Mendelssohn.
Celui qui a écrit la marche nuptiale pour ce
film. C'est tout ça. Et cette femme, en fait, un jour a eu la chance d'avoir un père qui lui a dit « La musique sera peut-être pour lui, en parlant de son frère, du frère de Fanny, une profession. Mais pour toi, elle ne peut être et ne doit être qu'un agrément. » Donc voilà, c'était juste pour continuer dans la... dans la cassure des artistes femmes.
Et rappelons que plein de gens pensent que des œuvres de, signées par son
oui,
frère sont en fait
sont
d'elle.
En fait, c'est ça.
Et pas du tout de lui.
C'est exactement ça, l'usurpation. Ouais. Eh bien, allez, on continue parce que j'ai bouffé beaucoup de temps. Et Fab, tu voulais nous parler de Mayotte et de cette grève.
Oui, oui, je voulais vous parler de Mayotte parce que c'est intéressant de voir que déjà que les médias en ont très peu parlé avant qu'il n'y ait des échauffourées et des gens qui. Des, quelques voitures qui brûlent et des choses un peu cassées. Ce qui démontre quand même que, qu'on le veuille ou non, l'État ne craint finalement globalement que la violence et que le reste ils s'en foutent un peu. Il faut être très clair parce que il y a eu quand même 16 jours de grève générale. Alors je vais vous rappeler quand même l'histoire de Mayotte. Hein. Mayotte, c'est une île qui est au sud des Comores. Hein, voilà, si vous vous situez un petit peu où se trouvent les Comores, pas très loin de Madagascar. Et cette île, en fait, depuis des années, est une possession française. Pour être très clair, hein, elle est déclarée comme telle. Elle est passée d'abord du stade de possession au stade de territoire d'outre-mer, puis maintenant elle est un département français depuis 2011. Voilà. Pourquoi en fait la France tient à tout prix à garder cette espèce de petit bout de terre au milieu de l'océan Indien, du coup ? C'est pour une raison simple, c'est que ça lui permet d'avoir des bases militaires et donc de rayonner sur l'ensemble du monde. Voilà, c'est ni plus ni moins que pour cela. C'est à ça que servent généralement les territoires et les départements d'outre-mer, même si on est très content de les avoir dans la communauté française, comme on dit, comme a dit Monsieur Valls tout à l'heure. Mais en fait, c'est...
Au regard d'un État.
Voilà, au regard d'un État, mais c'est en réalité, il y a une vision géostratégique bien derrière et qui n'est pas juste l'idée d'avoir, d'être gentil avec les Mahorais en les classant en département. Alors pourquoi la départementalisation ? Parce que l'ONU, en fait, depuis des années, reproche à la France d'être sur le territoire de Mayotte qui appartient en théorie aux Comores. Et que donc, en fait, l'ONU, je crois, à 6 reprises, a condamné la France pour, occupation illicite de territoire. Un petit peu comme Israël a été condamné, un petit peu comme la Russie l'a été, enfin voilà, comme des tas de nations le sont régulièrement. Mais c'est pas pour dédouaner la France que je dis ça, mais c'est juste pour dire que la France n'est pas exempt d'une forme de colonisation, finalement, et on s'en rend bien compte là, parce que c'est plus ou moins que ça. Et donc, en fait, ce qui a été trouvé, c'est que la France a dit, bon, on va faire un grand référendum, et on va demander aux Mahorais s'ils préfèrent être un département d'outre-mer, ou s'ils préfèrent être rattachés aux Comores, c'est-à-dire que la France s'en aille. Alors attention, la question était exactement préférez-vous être dans le giron français en tant que département et obtenir les mêmes droits que la métropole ou être attaché aux Comores ? Bon, je vous rappelle que les Comores est une des régions les plus pauvres de la planète, donc évidemment les Mahorais ont voté majoritairement pour redevenir un département d'outre-mer. Mais donc je vous rappelle qu'on leur avait dit dans la campagne que s'ils votaient pour devenir un département d'outre-mer, ils auraient les mêmes droits que les métropolitains. Et ben c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, voire même c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils sont devenus départements, et puis après, ça s'est arrêté là. On leur a mis un préfet, et puis on a dit, voilà, vous êtes département.
Merci.
Bonne journée, et surtout de réclamer rien d'autre.
C'est ça.
En fait, je schématise, mais c'est vraiment loin de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien arrêté, réajusté. C'est-à-dire qu'en fait, du fait de devenir département, le niveau de vie a grimpé très très vite à Mayotte. Parce qu'en fait, quand vous êtes département d'outre-mer, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de visa. Pour les touristes, ça veut dire que tout l'espace Schengen s'ouvre pour vous pour devenir une zone touristique. Oui, parce que c'est à dire que 500 millions d'Européens peuvent voyager dans l'espace Schengen. Or, un département d'outre-mer fait partie de l'espace Schengen. Donc, par exemple, je sais pas, un Allemand peut partir à Mayotte pour passer un peu de temps au soleil sans avoir à remplir de formalités excessives parce que c'est dans l'espace Schengen. Vous voyez, c'est la logique des choses qui sont derrière. Donc, ça fait monter le prix de l'immobilier, ça fait monter le coût de la vie. Et d'ailleurs, on va rappeler qu'à Mayotte, le coût de la vie est 7% plus élevé qu'à Lyon. Voilà, si vous rapportez au gain des gens, c'est 7% plus difficile de vivre à Mayotte que de vivre à Lyon. Voilà. C'était juste pour qu'on se rende compte. Hein. Lyon n'étant pas une toute petite ville de la campagne. Voilà. Et donc, si vous faites par rapport à Paris, c'est à peu près équivalent parce qu'en fait, la vie est 7% plus chère à Paris qu'à Lyon. Donc, c'est-à-dire que le niveau de vie, le coût de la vie est à peu près équivalent à celui du coût de la vie à Paris. Voilà. Et donc, imaginez bien que les Mahorais qui habitaient là-bas depuis des années et puis qui étaient très contents d'y habiter, ils ont vu du coup leur pouvoir d'achat, comme on dit, baisser à vitesse grand V. Alors, ils n'arrivaient plus à se loger, l'essence a flambé, l'électricité aussi, parce que EDF a dit, maintenant que vous êtes un département, on ne va plus faire les tarifs préférentiels, on va faire le vrai même tarif que partout ailleurs. Donc, ils ont augmenté les tarifs. Et puis, ils ont vu beaucoup de choses comme ça qui ont été, on va dire, exponentiellement, qui ont augmenté. Et puis, dans le même temps, eux, ce qu'ils espéraient, c'est par exemple que le code du travail français s'applique à Mayotte, vous voyez, parce qu'ils avaient un code local. Alors, le code local maoré, il tient en quelques pages, hein, c'est-à-dire qu'en gros, votre patron a tout pouvoir et il peut vous virer quand il veut. Et en fait, eux, ils disaient, non, il nous faut le code du travail de la métropole, enfin, le même que la métropole, pardon, parce que, et notamment les accords de branche. Vous savez, les fameux accords de branche, selon où vous travaillez, vous avez des droits qui sont différents et qui tiennent compte de la pénibilité du travail, des choses comme ça. Et c'est notamment dans les métiers de la maçonnerie, enfin tout ce qui est le BTP, qui explose un peu à Mayotte du fait de l'envie d'amener des touristes, que les gens ont commencé à dire, mais c'est pas normal, on n'a pas le même nombre de jours de congé, on n'a pas les mêmes protections, on fait des journées de 12 heures, alors qu'en théorie, la loi française limite les journées à 6h30 maximum de temps de chantier, ça c'est l'accord de branche, 8 heures en cas de coup de bourre sur le chantier. Vous voyez, donc ils se sont dit, mais c'est pas normal, on est département. Voilà. Et alors le plus drôle, c'est pour les fonctionnaires. C'est-à-dire que les fonctionnaires ont été fonctionnarisés, comme on dit, c'est-à-dire transformés en fonctionnaires, fonctionnaires d'État, mais par contre, ils étaient payés 20% par rapport à leurs collègues français, enfin métropolitains, pardon. Donc ils étaient payés beaucoup moins qu'un professeur, ils gagnaient beaucoup, beaucoup moins qu'un professeur en France. Un policier aussi gagnait beaucoup, beaucoup moins qu'un policier en France. Vous voyez, donc c'était un petit peu... Pour le policier, c'est pas trop grave, mais pour le professeur, c'est un peu embêtant quand même. Donc, il arrive un moment où on se rendait compte qu'en fait, ils se rendaient compte plutôt que on les avait un peu bernés. Parce qu'en fait, on les a complètement bernés, parce qu'on n'a pas du tout donné une réelle départementalisation. On a juste récupéré le territoire et après, on leur a dit démerdez-vous. Hein, en gros, c'était ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Mahorais? Ils ont dit tiens, moi, il y a un truc que j'ai aussi appris depuis des années, c'est que la lutte syndicale, ça paye et je vais vous le montrer. Parce qu'ils sont aussi inspirés, ils le disent eux-mêmes, de ce qui s'était passé en Guadeloupe. Mmh. Et donc, du coup, ils se sont mis en grève. Et alors, ils ne sont pas mis en grève un petit peu, hein, ils se sont mis en grève toutes les organisations syndicales de Lille, hormis la CFE-CGC qui ne représente là-bas que les dirigeants. Voilà. Et le MEDEF. Évidemment qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais toutes les autres organisations syndicales se sont mis ensemble pour lancer une grève qui est devenue une grève générale. Parce que alors, je vous rappelle qu'une grève générale, ça se décrète pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on a beau dire il faut faire une grève générale, c'est pas vous qui allez faire, c'est les gens. Et en fait, à Mayotte, ça a pris. Et ça a pris tellement bien qu'en fait, on estime que entre 60 et 80% de l'activité de l'île était à l'arrêt total pendant environ 16 jours.
Wow.
C'est assez énorme. Il y a eu des blocages sur les routes. Alors, c'est entre guillemets facile de ça. Je le tiens de camarades de la CGT qui sont sur place, qui m'ont envoyé un petit mail. Ils m'ont dit ce qu'il y a de bien à Mayotte, c'est qu'il y a que 3 routes nationales. Donc, oui, pour bloquer l'île, c'est super facile. Tu bloques deux ronds-points en fait. Enfin voilà, et tu bloques l'île. Mais en fait, ils disent c'est pas facile parce qu'il faut du monde. Mmh. Parce que le préfet dit c'est facile, sauf qu'en réalité, c'est jamais facile de bloquer. Il faut que vous ayez du monde tout le temps et tout. Et là, pendant 13 jours, il y a eu du monde en permanence pour empêcher les déplacements. Alors attention, ils n'empêchaient pas les Mahorais de bouger, ils empêchaient les camions, enfin tout ce qui fait les livraisons.
Tout ce qui fait le business, quoi.
Tout ce qui fait le business. Voilà, ils ont aussi bloqué l'aéroport de Mayotte, ce qui était vachement utile. Et puis bien sûr, ils ont aussi bloqué tout ce qui était la fonction publique. Hein. C'était les écoles, les cantines, tout ça, tout ça. Et ça a duré. Et ils avaient l'impression que personne ne les entendait. Alors effectivement, il y a eu des débordements, comme dirait notre cher ministre Cazeneuve. En fait, il y a eu des coups de colère et qui sont parfaitement légitimes. C'est-à-dire que vous êtes en grève depuis des jours et des jours et personne ne vous écoute. Donc à un moment donné, il y a des gens qui ont caillassé, qui ont brûlé, qui ont essayé de faire plus que. Et là, bizarrement, à partir de ce moment-là, hop. On va vous recevoir au ministère des Outre-mer et c'est madame, alors je ne vais pas me tromper sur son nom parce qu'elle a changé il n'y a pas longtemps. Oui, c'est madame Georges Pau Langevin qui va vous recevoir et qui est ministre des Outre-mer et elle va vous donner plein de bonnes nouvelles. Alors, fallait pas rêver. On est quand même en France, hein. Et en France, on a un grand mépris des Outre-mer. C'est une réalité, c'est assez dégueulasse. Donc en fait, ils ont obtenu des avancées sur des points qui étaient extrêmement urgents et importants. Alors par exemple, ils ont obtenu que le Code du travail national s'applique à partir du 1er janvier 2018.
2018.
Ouais. Alors ça paraît long comme ça, mais en fait c'est le seul compromis qu'il y avait, parce que je vous rappelle que dans l'accord signé à l'époque sous Sarkozy, c'était en 2035. Vous voyez, 2035-2018, on se rapproche. Hein. Voilà, ils ont obtenu ça parce que le MEDEF, comme toujours, a traîné des pieds en disant oui, mais les employeurs de là-bas, il va falloir qu'ils s'adaptent au Code du travail. Vous savez, c'est un peu bête.
Ah, oui.
Parce que ça, en plus, c'est terriblement raciste.
Ah, mais c'est
phrase.
De toute façon,
c'est ça qui est horrible, c'est que le MEDEF a une phrase d'un racisme assumé. En disant, ils sont tellement cons les employeurs maorais que
non mais il faut qu'ils s'organisent, voilà. Vous savez, monsieur.
Non mais en plus c'est ridicule parce que comme le soulignaient plusieurs membres de l'intersyndicale, en fait le droit du travail il est connu. Je veux dire, ce sera pas une nouveauté, c'est juste appliquer des règles quoi. Donc voilà, donc à partir du 1er janvier 2018. Alors et ça ils sont assez contents parce que ça va quand même un peu plus vite que ce qui était prévu. Pour les fonctionnaires, ils vont être payés 40% de leurs homologues métropolitains à partir du 1er janvier 2017. Alors je vais juste rappeler un chiffre pour que les gens se rendent compte. Le salaire médian à Mayotte est d'un demi par rapport au salaire médian de la Réunion. D'accord ? Le salaire médian, c'est 50% dessus, 50% dessous. Et la Réunion est au demi par rapport à la métropole. C'est-à-dire qu'à Mayotte, vous touchez un quart du salaire médian métropolitain. Voilà.
En ayant une vie
qui est équivalente à celle de la région parisienne.
C'est ça.
Tout
d'accord.
va bien.
Ouais, c'est cool.
Mais il
n'y
a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, ils ont aussi obtenu quelque chose qui était extrêmement important. C'est la revalorisation des retraites. Parce qu'en fait, ça paraît très bête, mais le fait d'être départementalisé fait que vous rentrez dans le régime général de la sécurité sociale, ce qui est une très, très bonne chose. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, on ne les avait pas fait rentrer. C'est-à-dire qu'ils gardaient en fait un régime particulier. Et ils ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'ils disaient, mais on n'a jamais eu de caisse locale, comme ça peut être le cas en Alsace, Moselle, comme tu en parlais la semaine dernière. Eux, ils n'ont jamais demandé ça, ils ont demandé à être intégrés à la caisse. Voilà. Il va y aussi y avoir une étude sur le fait que la CMU puisse être mise en place à Mayotte. Mmh. Alors ça, je le tiens aussi d'un camarade qui m'a dit, c'est d'une extrême importance, parce qu'aujourd'hui à Mayotte, vous avez 65% des gens qui ne se soignent pas. 65% des gens qui ne se soignent pas, c'est un chiffre ahurissant. Voilà, parce qu'il y a pas, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens, hein. C'est pas plus compliqué que ça.
Donc, souvent, quand on soigne pas, c'est pas qu'on en a pas envie.
Non, mais parce que je dis ça parce que, alors non, mais pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, il y a notamment le Front National qui a fait une sortie magnifique en disant qu'en fait, c'est parce que là-bas, ils aimaient la médecine locale, c'est traditionnelle. C'est une énorme connerie, ça, hein. Donc, voilà, je veux dire, à un moment donné, alors ça aussi, c'est très raciste, hein, en plus, ça, enfin, très différentialiste et très raciste. Non, ils disent, on veut la CMU pour les gens, parce qu'il faut que les gens puissent se soigner. Ils ont aussi obtenu qu'un hôpital soit enfin ouvert à Mayotte, un vrai hôpital, pas une espèce d'hôpital de brousse comme il y avait, comme ils disent eux-mêmes. Voilà, ils disent non, on veut un vrai hôpital avec des médecins, avec un scanner, avec des choses qui permettent d'être soigné. Voyez.
Avec des moyens, quoi, en fait.
Donc voilà. Mais pour eux, en fait, alors pour la ministre, c'est une énorme avancée, c'est un énorme accord, il est conclu. En fait, pour l'intersyndicale, ce n'est qu'une feuille de route et ils seront très vigilants à ce qu'elle soit tenue. Parce qu'en fait, ils le disent. Tant qu'ils ne savent pas où, tant qu'ils ne verront, s'ils ne voient pas arriver les choses, ils se remettront très clairement en grève, parce que pour eux, c'est une question de survie. C'est pas qu'une question juste de dire on veut être comme la métropole, c'est une question de survie. Il y a de la malnutrition à Mayotte, alors qui est plus ou moins importante, mais qui existe, et on est quand même sur un territoire où on est censé être en département, hein, donc voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a même pas d'assistante sociale suffisante pour l'ensemble des habitants. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez même pas obtenir des aides parce qu'en fait, il y a personne à qui parler. Donc, vous voyez, c'est des trucs, ça paraît des détails, sauf qu'en réalité, c'est juste qu'on ne met pas les moyens, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, et ça, je l'ai su juste avant de venir, c'est que la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte et la Martinique vont se rencontrer, enfin les leaders syndicaux, comme on dit, de ces îles, parce qu'en fait ils partagent les mêmes problèmes et les mêmes problématiques, et ils se disent que ce serait peut-être bien s'ils faisaient ça tous ensemble. Voilà.
Carrément.
Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que moi je me dis, ils nous montrent un petit peu comment ça marche, hein. On se met d'abord en grève générale, puis s'il y a besoin, on secoue un peu. Et puis, qui sait, on pourra peut-être un jour se passer d'État. Mais pour l'instant, mais voyez, c'est ça, c'est que la lutte, elle a été belle et bien menée. J'y arrivais à finir ma chronique sans déraper. Voilà. Voilà, c'était des nouvelles de Mayotte. Et donc, lundi, normalement, les grévistes se rencontrent. pour faire le point. Ils se sont déjà vus samedi, ils se sont revus dimanche, ils continuent à discuter entre eux, parce que je tiens à le souligner, et c'est très important, même si c'est une intersyndicale, c'est avant tout la base qui prend les décisions depuis le début et qui mandate des gens pour la représenter. Et ça, c'est aussi une belle façon de faire du syndicalisme. Mmh. Voilà.
Ben merci. On passe à la ZIC ?
Allez.
Il faut savoir pourquoi nous sommes battus contre le fascisme.
C'était Liberté 2 de Duba Mix sur Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de la causerie.
Le Duba Mix, c'est mignon.
Non, mais comment tu veux que je dise ?
Je sais pas, je dis dub. Duba Mix.
Bon, si tu veux, Duba
Mix. Non, mais c'est pas grave, c'était mignon, c'est
d'accord.
Tout. Eh ben, pardon. Fab, pardon, tu voulais nous... Ah oui, c'est ça. Tu voulais nous parler d'un truc qui est un petit peu en lien avec un truc que t'as vu la semaine dernière.
Ça, c'est du lancement. Ça, c'est du lancement.
Ouais.
En fait, la semaine dernière, je vous parlais des paradis fiscaux. Ouais. Et en fait, vous savez, les Panama Papers, c'est le fameux groupement de journalistes qui ont réussi à gratter auprès d'un intermédiaire bancaire et qui ont permis de sortir, grâce à un lanceur d'alerte, une liste de gens qui ont été... qui ont pu être identifiés, notamment 50 Français qui figurent sur ces listes. Bon, non, 15, je sais plus. Enfin bref, il y en a beaucoup. Trop, définition. Et beaucoup de Russes aussi, et notamment l'entourage de Vladimir Poutine, ce qui fait beaucoup grincer des dents en Russie. Enfin, pas vraiment. Et pourquoi en Russie, ça fait pas vraiment grincer des dents ? Parce qu'en Russie, on a une loi que c'est sur le secret des affaires. Et qu'en fait, en Russie, si vous en prenez à une entreprise, vous risquez gros. Parce qu'en fait, vous attaquez à l'intérêt de la nation. Mmh. Alors, on s'est dit quand même, si ça existe en Russie, ils vont quand même pas le faire en Europe. Hein. Bah si.
Bah,
bah attends.
Bah, les grandes idées, hein, c'est fait pour être diffusé.
Les grandes idées un petit peu qui viennent comme ça d'un pouvoir un peu dur, faut les reprendre. Hein.
Bah attends.
Et ben en fait c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le 14 avril, le Parlement européen a voté une directive sur le secret des affaires. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette directive, elle est à trois niveaux, et je vais le faire très vite, parce que c'est pas, voilà, vous chercherez sur Internet si vous voulez quelque chose de plus fin. Premier niveau, c'est qu'elle dit que, bah, finalement, on accepte qu'il y ait une part d'opacité dans les entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on accepte que les entreprises mettent de l'argent à l'ombre. Parce qu'en fait, dans la partie 2, on dit, bah, au pire, on mettra en place des amendes forfaitaires. Comme ça, on leur fera payer des amendes régulièrement pour qu'ils puissent mettre de l'argent à l'ombre. Bon, ça, c'est assez joli.
Hein. Ouais, c'est, tu veux dire comme un peu quand on fait une loi sur le travail où on met un quota de fric à donner, genre à un salarié au prud'homme, comme ça, t'es sûr que tu pourras pas donner plus et que ça permet
de... C'est la même logique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ni plus ni moins que réguler la fraude. Hein. C'est-à-dire que vous acceptez que la fraude existe, ou de toute façon, c'est pas la peine, ils seront jamais
Et qu'elle coûte pas trop cher au patron.
Hein. Et voilà, l'idée, c'est ça, c'est parce qu'en fait, cette loi, elle est hyper nationaliste, mais à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'elle est patriotique et nationaliste à l'échelle européenne, parce que c'est l'idée de défendre les entreprises européennes contre les autres méchantes entreprises. Voilà, donc ça, c'est les deux niveaux. Et alors, le troisième, qui est le plus emmerdant quand même, c'est qu'il introduit l'idée que dès que vous dites du mal d'une entreprise, elle a le droit de se retourner contre vous pénalement, et surtout, elle a le droit de dire que vous avez mis en danger sa compétitivité. Donc en fait, ça veut dire que les personnes qui sont aujourd'hui journalistes ou lanceurs d'alerte et qui font par exemple les Panama Papers risquent d'être mis en cause et d'être jugés par la loi européenne, c'est-à-dire jusqu'à maintenant à la Cour européenne des droits de l'homme ou à la Cour européenne du droit du travail, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là, enfin, il y a une autre Cour européenne, vous ne risquez pas en fait d'être condamné. C'est-à-dire qu'on savait qu'en ultime recours, vous seriez relaxé. Parce que c'était un droit d'alerter ses concitoyens. Oui. Et ben c'est plus possible. Parce qu'en fait, maintenant, dans le droit européen, va être introduit l'idée que si vous mettez à mal la compétitivité d'une entreprise ou l'image d'une entreprise, et ben vous pouvez être condamné. Et ça va obliger ou ça va rendre plus difficile les lanceurs d'alerte. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette loi, comme il n'y a aucun distinguo en effet entre la fraude réelle, c'est-à-dire un salarié qui prendrait des données et qui sortirait pour aller les vendre aux concurrents, et le lanceur d'alerte, il est sur le même plan. Mmh. Donc en fait, on considère que c'est pénalement répréhensible. C'est-à-dire que si vous sortez des données pour les donner à des journalistes pour dire « Regardez, en fait, on est en train de blanchir de l'argent et c'est dégueulasse », ben en fait, c'est au même plan que si vous prenez ces données pour les vendre à la banque concurrente. Ou à l'entreprise concurrente. Et donc, c'est ça, en fait, qui est rentré dans cette directive, et c'est ça qui crée le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les lanceurs d'alerte ne sont plus protégés en Europe, très clairement. Mmh. Voilà. Et je vous rappelle qu'ils ne le sont pas en France, parce qu'il n'y a toujours pas de loi spécifique pour les lanceurs d'alerte, et qu'en fait, ils ne le sont dans quasiment aucun pays européen, si ce n'est la Suède, qui a prévu, elle, un système à part. Et mais la Suède va être obligée de se plier à cette directive européenne, parce qu'elle est dans l'espace européen. Donc, vous voyez, donc, c'est-à-dire que le droit européen prévaut toujours sur le droit national, notamment dans le droit des affaires.
Oui, c'est ça.
Dans le droit des affaires, c'est pas vrai pour tout, mais dans le droit des affaires, oui. C'est dans les échanges internationaux, c'est l'Europe qui prévaut. Donc du coup, c'est assez inquiétant, ça inquiète beaucoup de gens. Alors moi, je me suis dit, bah, quand même, cette loi, elle a pas pu passer avec l'assentiment de tous les députés. Enfin, ça doit être un truc qui est passé genre...
À deux voix.
Ah, non. En fait, elle est passée avec 503 voix pour, sur 652 eurodéputés. Hein, donc on voit que c'est une très large adoption. 161 voix contre et 18 abstentions. Pardon. Alors, je vais juste te dire quand même que le grand parti qui défend aujourd'hui les travailleurs, d'après lui, qui s'appelle le Front National, qui dit être le parti des pauvres, contre la corruption et tout, a voté entièrement cette loi, et dès demain, hein, s'il vous plaît. voilà. Les Républicains aussi, pareil. Et le Parti Socialiste aussi, pareil. C'est bon. Alors, c'est quand même dingue de voir l'unanimité qu'il peut y avoir entre ces trois partis, quand même, pour dire « Tiens, bah regardez, on va faire une loi qui empêche qu'on puisse sortir des choses des entreprises qui permettent quand même de voir quand elles fraudent. » Voilà, c'est ça le truc. Alors, je voulais parler de ça parce que c'est assez énorme. Bon, alors c'était une grosse semaine au Parlement européen parce que dans le même temps, ils ont aussi autorisé le Roundup pendant 7 ans de plus pour faire plaisir à Monsanto. Et puis comme ça suffisait pas parce qu'ils se sont dit quand même, il faut pas déconner, le Conseil d'État en France vient de dire qu'on peut planter du maïs Monsanto 810. Il a cassé l'interdiction. Ah, de, ouais. Voilà. Oui, cette semaine. C'était une grosse semaine pour les multinationales.
Il a pas été remis
L'interdiction ?
Oui, mais le Conseil d'État a annulé cette interdiction parce qu'elle est anticonstitutionnelle et elle va à l'encontre du droit européen. Voilà, et donc, comme vous pouvez le voir, nous vivons une période merveilleuse et magnifique. Non, mais c'était juste pour dire qu'on le voit encore une fois de plus, hein, le Parlement européen, comme l'État français, comme tous les États, sont avant tout les protecteurs des riches et les protecteurs des multinationales, et que encore une fois, ce sont les plus pauvres et ce sont nous, globalement, qui allons en payer les frais. Je tiens juste à dire qu'il y a un procès qui va s'ouvrir cette semaine. Je vais retrouver son nom. C'est le procès de Antoine Deltour qui est à l'origine des révélations de LuxLeaks. Vous savez, le Luxembourg qui planquait et qui a mis Juncker vraiment à mal parce qu'il faisait partie de ce système-là. Juncker qui est président de la Commission européenne, je vous le rappelle. Et donc du coup, lui en fait, c'est ce que disent la plupart des juristes qui ont regardé. Aujourd'hui, il risque potentiellement un an de prison. Avec la nouvelle directive, il risquerait jusqu'à 7 ans de prison.
C'est super.
Voilà. Pour faire taire un lanceur d'alerte, c'est magnifique. Mmh. Alors que le gars a quand même prouvé que l'actuel président de la Commission européenne a participé à un grand système de fraude. Voilà.
Et en même temps, je me disais, tiens, maintenant que ce genre de loi-là est passé, est-ce que le TAFTA, il passera pas mieux ? Le traité transatlantique...
Aussi, il y a des chances, mais alors surtout, c'est encore plus drôle que ça. C'est là qu'on se marre, hein, dans le droit européen. C'est qu'en plus, le TAFTA, de toute façon, il a toutes les chances de passer, mais pas pour les raisons qu'on croit. C'est qu'en fait, la voix du Parlement européen sera consultative dans le dossier TAFTA. Donc même si le Parlement européen veut voter contre, si la Commission européenne vote pour, enfin signe, voilà, ça passe.
C'est cool la démocratie.
C'est ce qu'ils ont annoncé il y a 3-4 jours en arrière.
Ok, voilà. C'est cool.
Oui, c'est la démocratie à étage.
C'est ça.
Là, on est tellement loin que... voilà.
C'est pour les autres, quoi.
Moi, je vous rappellerai juste comme ça, c'est qu'il y a plein d'initiatives qui sont lancées. Mais il y a une chose qui est très claire, c'est que les pétitions, ça ne suffit pas, et très clairement pas, et qu'il va falloir à un moment donné qu'on se montre, parce que il y a plein de gens qui disent aujourd'hui, alors les gens, c'est surtout des lanceurs d'alerte et surtout des gens qui s'occupent beaucoup de ces dossiers-là, qu'en fait la pétition est devenue une institutionnalisation de la révolte, c'est-à-dire on signe et puis après on pense avoir fait ce qu'il fallait, et qu'en fait les outils européens permettent de digérer ça très bien.
De la révolte, voilà. Ou de l'indignation.
Oui, voilà, ou de l'indignation, et que du coup ça permet de digérer ça très bien, parce que par exemple on met en place des pseudo-référendums européens qui n'existent pas de fait, on met en place des règles pour soi-disant permettre une démocratie directe entre guillemets, ce qui est une aberration quand on a un parlement, et donc du coup voilà, et en fait voilà, il y a un moment donné, ces gens disent il va falloir faire des ZAD, il va falloir faire des manifs, il va falloir faire des blocages pour empêcher certaines lois de passer, parce que ça ne suffit plus de simplement signer et de faire confiance à 3 ONG pour qu'elles viennent vous défendre au Parlement européen. Et la preuve en est, c'est que là, il y a eu, je crois, entre 500 000 et 1 million de signatures contre cette directive dans l'ensemble de l'Europe. Et on voit qu'elle est passée avec une écrasante majorité d'élus.
Oui.
Voilà.
Eh bien, on passe à la musique.
Oui.
You pull out every don't, you pull out every don't, every day. Kawemes en plein ravrement. Une onde est sur sentiment. You peux la révidon, ton. You peux la révidon, révidon, show. You peux la révidon, j'ai.
You peux la révidon.
Ah, les ramoneurs de menhir dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org, comme tous les dimanches, entre 22 et un peu plus de 23h ce soir. On est un peu à la bourre. Et c'était donc Pussy Riotal, voilà, qui est en breton, les Pussy Riot. Bon, c'est une traduction un peu bancale. C'était pour que ça rime dans la chanson. Et c'était en soutien, vous savez, à l'époque où elles avaient un petit peu provoqué Poutine et l'église orthodoxe. Voilà.
C'était de la tôle.
Effet de la tôle. Et moi, je vous invite à aller voir leur site de Pussy Riot, voilà, et puis d'aller voir ce qu'elles font en ce moment, parce qu'elles ont fait une super chanson contre l'oligarchie et ses proches de Poutine qui bouffent plus que le peuple. Voilà, c'est très intéressant ce qu'elles font.
Yes.
Subversif à souhait.
Eh bien, oh ouais, 23h04, on fait des brèves, vite fait, bien fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Ouais,
je crois que c'est toi qui as la première.
Eh bien, la première, c'est moi, lundi 14, pas du tout, lundi 18, demain, comme tous les lundis, à la permanence juridique, à la Lutine, pour aider les sans-papiers et leurs proches, et c'est à 18h30, et c'est jusqu'à 20h, voilà.
C'est ça.
Et c'est 91 rue Montesquieu.
Ouais. Et ben, l'autre rendez-vous, c'est samedi 23 avril, donc c'est dans 6 jours. C'est à 20h, c'est la CGA, c'est donc la coordination des groupes anarchistes à Lyon, qui ont un local à la Plume Noire sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est une soirée de soutien aux camarades condamnés, à un camarade condamné à un mois de tôle ferme et 1 900 € d'amende. Alors regardez sur les réseaux, vous pouvez soit venir à la soirée, soit vous pouvez envoyer
des soutiens
via chèque, etc. Ouais. etc. Et puis ben voilà.
Ouais. Et moi je voulais juste te dire que c'est quand même dommage de voir que quand les vacances scolaires sonnent, le combat ralentit.
Ah bah, il se met un peu en veille en fait.
C'est un avis personnel, mais je trouve ça vraiment dommage.
Oui, voilà. Oui. Donc, c'est ça. Là, on va retourner la France, on va renverser le pouvoir français, mais faut s'y prendre vite, hein, parce qu'il y a bientôt les vacances d'été qui approchent, donc faut qu'on se calme nos montres.
Ouais.
C'est ça, coordination des montres. Enfin bon.
C'est un avis perso.
Ah oui, mais je le partage. voilà, je crois qu'on termine bien à la bourre. On va se...
J'ai un dernier truc avant qu'on se quitte. Je voulais saluer par contre les boîtes qui sont en lutte en ce moment. Alors, je vais pas faire la liste. Et je vous invite par contre, elles ont toutes généralement des piquets de grève parce qu'en ce moment, c'est un peu dur de faire autrement. Voilà. Donc, allez les soutenir et n'oubliez pas, quand vous passez devant un piquet de grève, même si vous vous arrêtez pas en voiture, un petit coup de klaxon pour dire que vous êtes d'accord, ça fait un bien fou. Voilà.
Yes. Et ben voilà, on va vous laisser en compagnie d'un titre que Clara va annoncer tout rapidement. Et puis maintenant, on vous souhaite bonne soirée, une bonne nuit, tout ça. Rendez-vous la semaine prochaine.
Et des bisous.
Et des bisous.
Et des bisous. On se quitte avec le titre Sodo de Krusseldorf, c'est suédois. Et c'est un morceau qu'on peut trouver sur La Planète Bleue, volume 8.
Yes. Et ça vient d'où, tu l'as dit?
C'est
ah
suédois.
Oui, suédois, oh là là.
T'écoutes pas.
Ah, il est trop tard, je crois. Allez, on y va.
Ciao.
Ciao.
Salut.